Merci beaucoup. Alors d'abord, je suis très impressionné d'être ici quand j'ai vu qu'il y avait 3000 habitants à Tence dans Wikipédia. Donc j'ai fait une règle de 3, je me suis dit il va y avoir 4 personnes. Et puis là, il y a une salle pleine. Donc je demandais tout à l'heure à Renaud si les habitants de Tence faisaient autre chose qu'aller au cinéma, aller à des conférences, acheter des livres et les lire. Donc j'imagine que c'est le cas. J'imagine qu'il y a de nombreuses autres activités comme travailler, dormir. Mais bon, c'est formidable quand on a la chance comme ça de rencontrer des lieux où il y a une vie intellectuelle et culturelle aussi intense. Donc, comme Renaud le disait, j'ai écrit ce livre Une vie intellectuelle et culturelle aussi intense. Donc, comme Renaud le disait, j'ai écrit ce livre l'année dernière. Il a été publié à l'automne. Et c'est un livre que j'ai beaucoup. C'est un vieux projet. C'est un projet auquel j'ai pensé pendant de nombreuses années, sans jamais vraiment savoir exactement comment l'écrire. Et puis à un moment, je ne sais pas pour quelle raison, je me suis dit bon, je vais me mettre derrière mon ordinateur et puis le commencer. Et les différentes formes qu'il avait prises, à chaque fois, avaient un point commun, c'était que je voulais essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'entendais autant de mal autour de moi de la technique et de la science. Alors la technique et la science, c'est pas pareil. Il y a bien sûr des liens, je vais y revenir. Mais juste pour prendre quelques exemples, si vous écoutez la radio, peut-être vous aimez les émissions de cuisine. Et dans les émissions de cuisine, il y avait une idée qui revenait tout le temps, c'était qu'il y a des bons produits et il y a des mauvais produits. Et alors j'ai essayé de comprendre ce qu'était un bon produit et un mauvais produit. Et donc un bon produit, c'est un produit qu'on appelle un produit naturel. Et donc je me demandais ce que le mot naturel pouvait bien vouloir dire. Et puis à l'inverse, le contraire de naturel, ça semble être industriel. Alors, déjà, on peut essayer de se poser la question, pourquoi est-ce que les mots naturels et industriels sont le contraire l'un de l'autre? Et dans les produits industriels, c'est horrible. Dès qu'on en mange, on tombe malade, on a plein de boutons, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Louis de Funès là, qui s'appelait « L'aile ou la cuisse » où à chaque fois qu'on mange des produits industriels, il y a des pustules qui apparaissent instantanément sur le visage. Et dans le mythe que je raconte, il y a une histoire qui est vraie, elle, en revanche, c'est que une fois, je faisais la queue pour acheter une glace à un glacier ambulant dans un jardin public. Et on avait le choix entre des glaces qui étaient servies en vrac avec une grosse cuillère, là, puis qu'on met sur un cornet, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble, et puis ou des esquimaux qui venaient dans d'horribles sacs en plastique, ils venaient de l'usine à esquimaux. Et devant moi, il y avait un enfant qui voulait un esquimau et sa mère lui a dit « Ah non, pas encore une de ces saloperies industrielles pleines de produits chimiques ». Et on peut écrire un bouquin juste sur cette phrase. Alors d'abord, pourquoi est-ce que industriel va avec saloperie? C'est la première question. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un produit chimique? Donc la chimie, c'est une science qui étudie tous les produits, c'est-à-dire l'eau est étudiée par la chimie aussi bien que des molécules de plastique. Donc tous les produits sont des produits chimiques. La chimie ne se limite pas à des substances artificielles. La chimie étudie donc chaque molécule qui est dans une glace, quelle que soit la nature de la glace, est l'objet de la théorie chimique. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des produits chimiques et pourquoi est-ce que c'est moins bien? Et donc, ça, c'était beaucoup les préjugés que j'entendais autour de la notion de technique. Il y a beaucoup d'autres préjugés. Par exemple, les lycées techniques, c'est des lycées où on fait des formations plus courtes que dans les lycées de formation générale. Donc, est-ce que ça veut dire que la technique est une chose facile, qu'on peut apprendre rapidement? Et en fait, non. La technique est quelque chose d'extrêmement difficile. Et si on veut vraiment devenir compétent sur un petit bout de la technique, il faut faire de très, très longues études. Donc, pourquoi est-ce que les lycées qui proposent des formations courtes, des formations professionnalisantes, on les appelle des lycées techniques? Pourquoi c'est pas le contraire? Après tout, les cultures générales, on sait que ça s'acquiert assez vite. C'est la culture technique qui est longue à acquérir. Alors, il y a d'autres exemples. Par exemple, dans un ministère, un conseiller technique, moi, je pensais que c'était le chef du conseiller. Il y avait le conseiller qui n'était pas très technique, puis après, il y avait le conseiller vraiment technique. Et au-dessus, mais non, c'est le contraire. Le conseiller technique, c'est l'adjoint du conseiller. Donc, le fait qu'on a rajouté technique, c'est pour dire que c'est pas vraiment un conseiller, c'est juste un conseiller technique. Bon, il y a plein d'autres exemples. Je crois que le mot technique n'a qu'une signification péjorative. En science, un résultat technique, par exemple, y compris les scientifiques, c'est un résultat qui est très difficile, mais pas très intéressant. Donc, c'est ça qu'on appelle un résultat technique. Sinon, on appelle ça un beau résultat. Alors, de l'autre côté, il y avait des préjugés contre la science qui m'intéressaient également d'analyser. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'ils étaient différents. J'ai cru qu'ils étaient dits par des personnes différentes et qu'ils allaient un peu l'un contre l'autre. Et en fait, c'est un peu sur ce... C'est un peu parce que je suis revenu sur cette idée, sur cette première idée, que je pense que j'ai pu écrire le livre. Donc, par exemple, Renaud rappelait que j'ai écrit un livre sur les sondages. Et ça a été une expérience très intéressante pour moi. Non pas parce que j'ai bien vendu ce livre. Ce livre s'est extrêmement mal vendu. Donc, c'est un livre qui n'intéresse pas les lecteurs. En revanche, il intéresse beaucoup d'autres gens. Et il intéresse, par exemple, des journalistes, des hommes politiques, etc., qui veulent m'en parler. Et une fois, j'ai été invité sur un plateau de télévision pour parler de ce livre. Et des sondages, on est passé à un problème différent qui était: est-ce que les mathématiques peuvent nous aider à comprendre le comportement humain? Bon, les sondages font partie de ce problème. C'est-à-dire, si les mathématiques ne peuvent pas nous aider à comprendre le comportement humain, ce n'est pas la peine de faire des sondages. Mais c'est un problème qui va bien au-delà de la question des sondages, puisqu'il y a essentiellement deux usages des mathématiques dans les sciences humaines. Il y a l'aspect enquête, l'aspect sondage, l'aspect mesure. Et puis, à côté de ça, il y a l'aspect modélisation. Donc, est-ce qu'on peut faire un modèle, éventuellement un modèle prédictif, un modèle dans lequel on va essayer de comprendre, de prédire la manière dont des êtres humains vont se comporter? Et bon, c'est une question qui est extrêmement difficile, mais extrêmement intéressante également. Et j'étais étonné parce que sur le plateau de télévision dans lequel j'étais, tout le monde avait déjà résolu le problème et tout le monde avait déjà répondu à la question. Et la réponse est non. Donc, il faut le savoir. Et donc, j'avais essayé de dire, mais oui, mais regardez, de temps en temps, par exemple, on peut faire un petit modèle. Par exemple, on peut faire un petit modèle qui explique que quand la température baisse, les gens augmentent le chauffage. Non, c'est un comportement humain. Le chauffage n'augmente pas tout seul. Enfin, il y a des maisons où il augmente tout seul, mais il y a des maisons où les gens vont tourner le bouton. Et c'est un modèle qui est utile. Par exemple, les gens qui prévoient la quantité d'électricité, la quantité de gaz à livrer, c'est bien qu'ils sachent que s'il fait froid, les gens vont se chauffer davantage. Et ça a l'air d'être quelque chose qui marche. Et alors, j'ai donné cet exemple et on m'a dit non, mais bien sûr, cet exemple n'a aucun intérêt. Mais de manière plus générale, ce n'est pas possible de modéliser le comportement humain d'une manière mathématique parce que nous ne sommes pas des formules mathématiques. Je dis oui, ça, c'est sûr que nous ne sommes pas des formules mathématiques. Donc, l'argument avait l'air d'être clos. Et il y a donc cette idée que les mathématiques, la science en général, par exemple, est complètement à l'opposé de ce qui est humain, de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Bon, c'est pas une nouvelle idée, puisque au XVIIe siècle, on disait la même chose, mais on disait pas la même chose pour les comportements humains, on disait la même chose pour la physique. On disait, la physique, vous voyez, ce verre, c'est pas tout à fait un cône, c'est pas tout à fait un cylindre, c'est pas vraiment une forme géométrique. Il n'a pas la perfection idéale d'une forme géométrique. Par exemple, un trait que vous tracez avec un crayon, il a une certaine épaisseur, alors qu'une droite de la géométrie, elle a une épaisseur, elle n'a pas d'épaisseur. Donc, les objets géométriques, les objets mathématiques, c'est des objets abstraits, c'est des idées. Et bien sûr, les choses du monde physique sont des objets qui ont une rugosité, qui n'ont pas cette idéalité des objets mathématiques. Et donc, on pensait au XVIIe siècle, contre Galilée, qui lui pensait le contraire, que les mathématiques n'avaient aucune utilité en physique. Et d'ailleurs, la physique jusqu'au XVIIe siècle n'utilise pas les mathématiques. Chez Aristote, il y a des objets qui tombent, puis il y a des objets qui montent, les téléphones portables tombent et les fumées montent. Enfin, c'est sans doute pas l'exemple que donne Aristote. Les fumées qui montent, c'est l'exemple que donne Aristote. Mais on n'est pas capable de mesurer, de quantifier, on n'est pas capable de faire un modèle, on sait juste décrire les choses d'une manière très qualitative comme ça. Et on peut se demander si ce n'est pas un peu les mêmes arguments qu'on utilise aujourd'hui dans le cadre des sciences humaines. Encore ce matin, j'ai entendu cet argument. Il y a un instituteur dont vous avez sans doute entendu parler qui est passé en conseil de discipline ce matin. Il est passé en conseil de discipline parce qu'il a refusé d'évaluer ses élèves de CM2. Et je dois dire, mais ça n'a aucun intérêt, que j'ai plutôt tendance à être d'accord avec lui sur le fait que on évalue trop les élèves, les étudiants, etc. Donc c'est bien de ne pas le faire. Néanmoins, je ne suis pas du tout d'accord avec l'argument qu'il a donné en sortant du conseil de discipline, qu'il a fort heureusement, qu'il a donné raison. Il a dit, heureusement, il reste un petit nombre de personnes pour qui l'humain est plus important que les chiffres. Et donc là, je ne comprenais pas en quoi les chiffres avaient à voir là-dedans. Et surtout, je trouve un peu embêtant qu'un instituteur dont une des missions est d'enseigner la manipulation des chiffres à des enfants ait une image aussi dégradée, une image et autant de préjugés contre les chiffres. Alors, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'on dit les chiffres et pas les nombres. Et on pourrait dire oublions les nombres. Non, on dit toujours oublions les chiffres, arrêtons de parler des chiffres. On ne dit pas arrêtons de parler des nombres, on ne dit pas arrêtons de parler des triangles, on ne dit pas arrêtons de parler des fonctions, on dit arrêtons de parler des chiffres. Et les formules et les chiffres ont un point commun, c'est ce qui appartient au domaine de l'écriture. Les formules mathématiques, c'est la manière dont on écrit les mathématiques. Donc en fait, dans ce discours contre la science, contre les mathématiques, c'est beaucoup le fait que les mathématiques soient écrites. C'est les chiffres. Les chiffres, c'est les signes par lesquels on écrit les nombres. Et donc, ce n'est pas les nombres qu'on critique, c'est les chiffres, c'est le fait qu'on écrive. Et cette idée qu'un des problèmes que nous pose la science, est lié à l'écriture, et une idée qui a été développée plusieurs fois au cours de l'histoire, et en particulier elle a été développée d'une manière extrêmement soutenue, extrêmement détaillée, et étonnamment détaillée, dans une période sombre de notre histoire européenne, qui est pendant le Troisième Reich, pendant le régime nazi. Il y a eu une théorie qu'il y avait deux sciences, il y avait la science juive et la science arienne. Et donc, vous comprenez que la science arienne, c'était la bonne. Et qu'est-ce que les nazis reprochaient à la science juive? Par exemple, il y a un théoricien du nazisme qui s'appelle Johannes Stark. Et Stark et Lenard, c'est les deux grands théoriciens de la science arienne. Ils disent que la science juive, c'est une science où il n'y a que des formules. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que cet argument sur les formules mathématiques revient, alors bien sûr, avec différents degrés, avec différentes formes, c'est pas tout à fait la même chose de tuer des gens et de juste leur dire c'est pas bien d'utiliser des formules, mais c'était intéressant de voir que dans cette théorie complètement aberrante et complètement délirante sur la science, qui était cette opposition entre la science juive et la science arienne, on retrouvait un vieux fond commun qu'on retrouvait aujourd'hui aussi dans ce discours qui dit bon, oublions les chiffres, essayons de valoriser l'humain. C'était pas ce que disaient les nazis, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas seulement les deux endroits où on le trouve, des gens encore plus sympathiques, par exemple mes collègues qui développent l'opération la main à la pâte. Donc la main à la pâte, c'est une opération qui vise à réintroduire des sciences à l'école primaire. Et donc, je peux que soutenir ce genre d'initiative. Mais, de manière intéressante, il défend un point de vue de la science selon lequel la science est mettre la main à la pâte, c'est-à-dire c'est avoir un rapport direct avec l'objet. C'est vraiment faut voir la main du boulanger dans la pâte scientifique. Et il y a un petit discours qui vient avec ça, qui est beaucoup moins marqué que dans les deux autres cas, qui consiste à dire, oui, on voit trop la science à travers des formules, des chiffres, etc. La science, c'est d'abord toucher des objets. Donc, c'est le sens de la science, c'est le toucher. Bon, et donc, on voit que dans cette initiative relativement sympathique et dans d'autres qui le sont moins, on retrouve cette même idée. Et c'est cette même idée, finalement, si on la pousse un petit peu, je me disais, j'ai l'impression que c'est l'écriture qui pose un problème. C'est le fait d'écrire qui est dévalorisé dans le monde dans lequel on est. Les nombres, ça va, mais si on écrit les nombres, ça devient des chiffres, et à ce moment-là, ça va plus. Les idées mathématiques, ça va, mais si on écrit les mathématiques, ça devient des formules mathématiques, et à ce moment-là, on trouve une dévalorisation. Et donc, j'avais l'impression qu'entre cette analyse des préjugés contre la science, qui était très axée sur l'écriture, et puis l'autre domaine, qui était les préjugés contre la technique, il y avait un peu une contradiction, puisque d'un côté, j'avais l'impression que c'était le fait de faire des choses qui était critiqué, donc c'était vraiment les choses, la technique, le monde des choses, le travail manuel, etc. Puis de l'autre côté, c'était plutôt le travail intellectuel, l'écriture. Donc je me disais, non, ça va à l'inverse l'un de l'autre. Et en fait, il y a un moment où j'ai plus ou moins réussi à sortir de cette impasse dans laquelle j'étais. C'est un moment où je me suis rendu compte que les civilisations européennes anciennes, alors qu'est-ce que j'appelle les civilisations européennes anciennes? C'est les civilisations qui existaient, qui vivaient, les gens qui vivaient avant l'an moins 1000. Donc c'est essentiellement ce qu'il y avait avant les Grecs, avant... Donc c'est vraiment la fin de la préhistoire et le tout début de l'histoire. Et donc, les cultures européennes qui existaient à cette époque, on les connaît relativement mal, mais on les connaît relativement mal pour une raison particulière, c'est qu'elles ont refusé d'écrire. Donc, l'écriture existait, l'écriture a été inventée en moins 3500 à peu près, en Mésopotamie, en Égypte, et moi je croyais bêtement que quand on avait inventé l'écriture, le monde entier avait sauté au plafond de joie en disant on a de l'écriture, formidable, on va l'utiliser, on va écrire des lettres, on va écrire des SMS, on va écrire des... Et en fait, pas du tout. Il y a, en particulier en Europe, une forte réaction contre l'écriture, et en particulier toute la classe du clergé, donc du clergé des religions de l'époque. Et les religions de l'époque, on les connaît un petit peu, pensez aux religions des Grecs et des Romains, vous voyez, donc c'est ce panthéisme donc qui est avant le christianisme, avant le monothéisme, enfin le judaïsme existait ailleurs, mais pas en Europe. Et donc c'est clair, ces membres du clergé ont longtemps favorisé une culture qui se transmettait oralement, c'est-à-dire le disciple apprenait du maître par cœur, et puis quand il avait terminé, il prenait lui-même un disciple qui apprenait par cœur. Et donc tout un tas de textes qu'on connaît aujourd'hui qui sont imprimés, l'Iliade, l'Odyssée, etc., sont de vieux textes qui ont été transmis de génération en génération comme ça, et les clercs ne sont pas du tout adopté cette écriture. Ils l'ont même rejetée comme étant quelque chose d'extérieur à la culture. Et alors, cela dit, on a plus proche de nous, donc après l'an moins 1000, on a des signes écrits cette fois-ci qui vont dans le même sens. Par exemple, l'enseignement de Socrate était un enseignement purement oral, et donc Socrate dit qu'il ne faut pas écrire. Et Platon, qui écrit beaucoup, contrairement à Socrate, lui, écrit pour dire que c'est pas bien d'écrire. Donc, il y a plusieurs textes de Platon. Donc, d'abord, dans la caverne de Platon, on nous dit il y a les belles idées, et puis c'est le cosmos, et puis la manière dont c'est projeté sur le mur de la caverne, ce que Platon appelle le logos. Bon, c'est un gauchissement des idées. Il y a les belles idées, et puis elles sont mal retranscrites dans le texte. Et puis, Platon explique qu'aujourd'hui, les étudiants sont paresseux, donc... Et ça fait longtemps qu'on pense que les étudiants sont paresseux. Ils sont paresseux parce qu'ils refusent d'apprendre par cœur. Et pourquoi ils refusent d'apprendre par cœur? Tout simplement parce qu'on les laisse écrire. Donc il suffirait de les empêcher d'écrire et ils apprendraient par cœur comme tout le monde. Et ils cesseraient d'être paresseux. Vous remarquez que ce n'est pas tout à fait des arguments différents de ce qu'on entend de si les jeunes utilisaient moins Internet, je ne sais pas quoi, peut-être qu'ils apprendraient plus. Donc Platon avait déjà ses idées. Puis plus proche de nous, il y a par exemple une philosophe comme Hannah Arendt qui explique que la véritable pensée, elle ne se couche pas dans les mots. À partir du moment où on couche la pensée dans les mots, la pensée est figée et c'est plus une pensée vivante. Alors c'est d'ailleurs quelque chose de surprenant parce qu'Hannah Arendt est connue pour son analyse du totalitarisme, pour avoir été une grande militante et une grande analyste, une grande militante contre le totalitarisme, une grande analyste du totalitarisme. Et le jour où elle écrit ça, elle emploie le verbe figer, qui est exactement le verbe que Lennart et Stark employaient à propos de la science juive. La science juive, les idées sont figées dans les formules mathématiques. Et donc c'est assez surprenant que des penseurs qui sont quand même dans, je pense de manière sincère, radicalement opposés les uns aux autres, finalement, et les uns et les autres ont pris cette idée contre l'écriture, cette idée que l'écriture, ce qui est bien, c'est la pensée vivante, c'est la pensée orale, et que l'écriture est quelque chose de dévalorisé. Alors, le cas de la technique était beaucoup plus facile à comprendre, puisque toujours, si on voit ces cultures anciennes, elles ont été beaucoup étudiées par un historien et un linguiste qui s'appelle Georges Dumézil, que certainement beaucoup d'entre vous ont lu. Et donc, ce que Dumézil nous raconte, c'est que ces structures anciennes étaient structurées en trois groupes. Donc, il y avait le groupe, le clergé, dont je vous ai déjà parlé. Puis, il y avait un groupe de guerriers. Et il y avait un groupe de producteurs. Donc, les producteurs, c'est les paysans, les artisans, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas guerriers ou clercs. Et en gros, c'est la même structure qu'on retrouve dans la société française jusqu'à la Révolution française, le clergé, l'aristocratie, les guerriers, et puis la roture, le tiers-état, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour se nourrir et pour nourrir les autres. Et donc, exactement comme avant la Révolution, en fait, ces structures apparemment avaient disparu, elles ont été réintroduites à partir des Carolingiens au Moyen-Âge, et vraisemblablement en imitant des structures plus anciennes, puisque Dumézil nous dit que ça remonte à la fin du Néolithique, donc 7000 ans il y a 7000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà des organisations de ce type. Et exactement comme au Moyen Âge, et exactement comme on va dire aujourd'hui, il y a une hiérarchie entre ces différentes classes. Et je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que la classe à laquelle il vaut mieux pas appartenir, c'est les producteurs. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui y appartiennent. Hein. Dans les sociétés anciennes, au Moyen Âge, etc., les nobles et le clergé forment une toute petite partie de la population, 98-99% de la population travaille. Mais clairement, il vaut mieux être noble que roturier, ça, on s'en était déjà rendu compte. On n'avait pas besoin de Dumézil. Donc, du coup, on peut se dire que la technique, par rapport à la science, par exemple, par rapport à d'autres choses, c'est assez facile d'expliquer pourquoi elle est dévalorisée, puisque le technicien, c'est celui qui fabrique. D'ailleurs, fabriquer est un verbe qui est péjoratif, lui aussi. Par exemple, si vous dites, il y a un film qui va passer après ce soir au cinéma, si vous dites une œuvre d'art, c'est fabriqué, il y a un effet, il est vraiment fabriqué, c'est-à-dire que ça ne vous a pas plu. Si le mot qui veut dire exactement la même chose que fabriquer, mais qui vient avec une connotation positive, c'est créer. Là, si vous dites... ce type, c'est un créateur. Oui, donc ça, c'est formidable. Si vous dites, c'est un fabricant. Bon. Pourtant, c'est vraiment la même chose. Hein. C'est créer, fabriquer. Si vous n'avez rien, vous faites quelque chose. Vous fabriquez. Enfin, vous créez. Vous amenez quelque chose de... Vous fabriquez, créez quelque chose. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que cette double dévalorisation d'un côté du travail, de la technique, de fabriquer, etc. Et d'autre côté de l'écriture, eh bien, c'est exactement ce que Dumézil et d'autres sergents, d'autres historiens racontent de ces civilisations très anciennes. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que finalement, ces préjugés qu'on a contre la science, ces préjugés qu'on a contre la technique, et qui souvent ne s'exprime pas. C'est-à-dire, si vous dites aux gens, est-ce que la technique, c'est bien, ils vous disent, oui, c'est formidable. Mais en revanche, ça n'empêche pas qu'ils emploient le mot technique toujours dans un sens péjoratif. Donc, ce qui est intéressant dans un préjugé, c'est que ce n'est pas un jugement, ce n'est pas quelque chose où on a réfléchi, puis on a dit, oui, on va brûler tous les ingénieurs, ce n'est pas bien de faire de la technique. Non, c'est quelque chose qu'on a, c'est une idée, on a l'impression de la partager avec tout le monde depuis toujours. C'est une idée qui a toujours été... Déjà là, on a toujours pensé qu'il valait mieux être guerrier qu'être producteur, que c'était mieux, c'est un meilleur métier. D'ailleurs, le guerrier, l'opposition entre le guerrier et le producteur est assez intéressante dans les écoles de commerce, par exemple. Les écoles de commerce forment des gens qui vont être commerçants. Alors maintenant, on ne dit pas commerçant, parce que c'est pas bien commerçant, il faut dire commercial. Mais supposons qu'ils sont commerçants. Donc les commerçants faisaient vraiment partie des producteurs, historiquement, les commerçants, les artisans, les paysans, tout ça c'est les producteurs. Et donc on pourrait penser que dans les écoles de commerce, on développe une culture qui valorise le fait de produire, le fait de fabriquer. Et à l'inverse, dans les écoles de commerce, on fait lire aux élèves Sun Tzu. Alors Sun Tzu, c'est un stratège chinois qui a écrit un livre qui s'appelle « L'art de la guerre ». Donc moi, je croyais que c'était dans les écoles militaires qu'on lisait Sun Tzu, que dans les écoles de commerce, on lisait des textes qui sont liés à la fabrication, à l'industrie. Non, on fait lire Sun Tzu dans les écoles de commerce, puisque le but dans les écoles de commerce, c'est pas de former des gens pour qu'ils deviennent des employés dans une entreprise, c'est pour qu'ils participent à la guerre économique. Donc ça, c'est des guerriers de la guerre économique, du coup, c'est normal qu'ils lisent Sun Tzu. Donc... Il y avait le commerce devient acceptable si c'est la guerre. Si c'est juste on fabrique, on vend, aucun intérêt. Mais si ça devient une guerre, il y a des guerriers, à ce moment-là, là c'est plus chic. Alors, bien sûr, c'est une guerre qui tue beaucoup de gens, hein, mais c'est le propre des guerres. Donc il y a une fausse opposition, il me semble, entre la pratique et la théorie, entre les choses et les mots, etc. C'était l'opposition dans laquelle j'étais perdu. La bonne opposition, c'est d'opposer le producteur au guerrier. C'est d'opposer la fabrication, la production, à l'action, pas à la pensée. La production, ça s'oppose à l'action. Et puis de l'autre côté, il y a une opposition entre l'oral, la véritable pensée, et puis l'écrit, la science. Qui n'est pas de la véritable pensée, si on croit par exemple Hannah Arendt. Son dernier livre, dont j'oublie tout le temps le titre, Considération morale, pour une fois, je ne l'ai pas oublié, est vraiment intéressant parce que bizarrement, tout un tas de thèmes qui étaient un peu en filigrane dans ce qu'elle écrivait avant sont devenus extrêmement clairs. Et sa pensée s'est un peu radicalisée sur la fin, et c'est un livre intéressant pour comprendre les préjugés qui étaient déjà là avant dans son œuvre. Alors, on peut essayer de comprendre, de se dire, mais c'est bizarre, quand même, cette histoire de la résistance de l'écriture, cette résistance des clercs à l'écriture. Si vous avez, comme moi, un peu de culture, mais pas trop, vous pensez que l'écriture, quand vous pensez à l'écriture, vous pensez aux moines copistes, le Moyen-Âge. Et on se dit, les moines copistes, c'est religion, écriture, université, ça va ensemble. Ça, c'est une production relativement tardive dans notre culture. Vous voyez, si on se passe sur la longue échelle, 7000 ans, etc., le Moyen-Âge, c'est hier. Et si on regarde exactement l'origine de l'écriture, ça n'a pas du tout été fait, l'écriture n'a pas du tout été inventée pour écrire des romans, pour écrire des textes sacrés, pour écrire des traités de philosophie, pour écrire des traités de théologie, etc. Comme je vous l'ai dit, tous ces textes étaient transmis oralement. Il y a une chose qu'on ne peut pas transmettre oralement, c'est les livres de contes. Je ne sais pas si vous faites vos contes, d'accord ? Ben, si vous pensez à vos contes d'il y a 3 ans, heureusement que vous les avez écrits. Parce que s'il faut repenser un livre de contes que vous avez écrit il y a 3 ans, c'est très difficile. De la même manière, si vous devez transmettre vos comptes à un commissaire aux comptes, qui doit les vérifier, ou à votre banque, ou je ne sais pas quoi, c'est bien de lui transmettre par écrit. Par exemple, si vous essayez de lui transmettre au téléphone, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique de lire un livre de compte au téléphone et l'autre de l'autre côté de notes. Donc, c'est difficile. Donc, pour ce qui est de... Et même de faire ces comptes uniquement avec le calcul mental, je ne suis pas très bon au calcul mental, mais je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts, mais même eux n'arrivent pas à faire leurs comptes. Enfin, ils arrivent à faire 2 additions, 3 additions, comme ça, mais faire 50 additions à la suite, uniquement avec le calcul mental, on se trompe. Donc, il y a une activité dont on sait qu'on ne peut pas l'affaire avec le calcul mental, on sait qu'on ne peut pas la garder avec la mémoire et on ne peut pas la transmettre avec la parole, c'est les livres de contes. Et de fait, il ne faut pas trop s'étonner que les plus anciens textes qu'on ait retrouvés, ce soit des livres de contes. Donc l'écriture, elle vient vraiment avec le commerce, avec la comptabilité. Le scribe, dans les sociétés anciennes, c'est un prolétaire. Ce n'est pas du tout un clerc. Et donc, du coup, on imagine bien que les clercs, voyant un outil, une technique qui a été inventée par des scribes qui sont eux-mêmes des prolétaires, ne vont pas se mettre à utiliser cette même technique. Ils n'ont pas besoin d'une technique qui a été inventée par des esclaves, par des scribes. Ils vont garder leurs anciennes techniques. Et ça explique relativement bien le fait que l'écriture a eu une certaine difficulté à être adoptée par les intellectuels. Alors aujourd'hui, à l'école, on a l'impression que l'écriture est reine. Mais c'est vrai en grande partie. C'est vrai en particulier les instituteurs, par exemple, les professeurs des écoles passent beaucoup de temps à apprendre leurs élèves à écrire. Mais cependant, à la marge, il reste encore un certain nombre de préjugés. Je me suis intéressé depuis un an ou deux à essayer de convaincre le ministère de l'Éducation nationale que c'est une mauvaise idée de ne pas enseigner l'informatique au lycée. Donc aujourd'hui, dans les lycéens, on leur apprend un peu de biologie, un peu de physique, un peu de maths. Je pense que c'est une très bonne idée. On leur apprend aussi tout un tas d'autres choses. Je pense que c'est aussi une bonne idée. Mais on ne leur apprend pas du tout d'informatique. Et donc, pour tout un tas de raisons, à la fois parce que dans les sciences aujourd'hui, l'informatique a pris une certaine importance, parce que dans notre vie quotidienne, l'informatique a pris une certaine importance, parce que dans l'industrie, l'informatique a pris une certaine importance. La moitié de la croissance mondiale est tirée par les entreprises d'informatique. J'ai décidé, ce qui n'est pas une mince affaire, de convaincre le ministre, les conseillers du ministre, qu'il fallait enseigner l'informatique aux jeunes qui sont au lycée. Et dans l'informatique, il y a 4 concepts. L'informatique, il y a un concept d'algorithme, je ne vais pas en parler. Il y a un concept d'information, il y a un concept de machine, et il y a un concept de langage. Donc il y a 4 concepts essentiellement. L'informatique, ça consiste essentiellement à écrire des algorithmes dans un langage, à écrire des algorithmes qui manipulent les informations. Les algorithmes, on les écrit dans des langages et on les exécute sur des machines. Et alors il y a un certain nombre de concepts où les personnes à qui je parle me disent oui, ça c'est une bonne idée d'enseigner ça. Et alors, par exemple, la notion d'information, il trouve que c'est une très bonne idée d'enseigner ça. La notion d'algorithme, il trouve que c'est une très bonne idée d'enseigner ça. Mais il y a deux choses qui ne passent pas. D'abord, c'est d'enseigner l'architecture des machines. Comment est-ce que les machines sont fabriquées, si on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça, c'est un savoir qui a l'air d'être un peu trop technique pour être enseigné dans les lycées. On pense qu'il y a sans doute des lycées techniques où on peut enseigner ça, mais au lycée de formation générale, c'est un savoir un peu trop technique. On ne va pas ouvrir des boîtes pour regarder ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas assez d'idées, c'est trop concret. Mais bon, ça, j'arrive à le comprendre. Disons, je sais que la technique est dévalorisée. En revanche, une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que la notion de langage, en particulier de langage de programmation, rencontre la même résistance. C'est-à-dire, enseigner les langages de programmation, c'est trop compliqué, trop abstrait, tout le monde ne peut pas comprendre. Bon, alors que moi, je crois au contraire que tout le monde peut comprendre un langage de programmation. C'est beaucoup plus facile de comprendre un langage de programmation que de comprendre le français ou l'anglais, qui ont des structures beaucoup plus complexes que les langages de programmation. Et bizarrement, je m'attendais à ce que sur cette question des langages, les profs de philo, les profs de français, etc., me soutiennent, et pas du tout. C'est plutôt ces langages qui sont nécessairement écrits. Hein. Un texte dans un langage de programmation, c'est comme un livre de compte, on ne peut pas le lire à haute voix. Ça ne se lit pas à haute voix, c'est un texte écrit. Et ça fait partie d'une forme de savoir qui est trop obscure. C'est un peu pour les rats de bibliothèque. Là. Les nouveaux rats de bibliothèque, c'est les geeks, c'est les fanats d'informatique qui écrivent toute la journée des programmes. Et donc ça, c'est pas très bien. Donc on voit que, à la marge, bien entendu, je ne suis pas en train d'expliquer que l'école maintient les enfants hors de la sphère de l'écriture. Je vois un tout petit peu, j'ai un tout petit peu les pieds sur terre. Mais cependant, on voit qu'à la marge, par exemple, l'introduction d'une nouvelle idée à l'école, si c'est lié à des idées abstraites, d'algorithmes, d'information, ça a l'air de marcher. Quand c'est lié à la technique ou lié à l'écriture, eh bien, ça pose plus de problèmes. Mais on voit que si on repart de cette idée que le scribe est un prolétaire, on voit finalement que l'ensemble de ces préjugés, eh bien, apparaît comme étant des préjugés contre le prolétariat, contre la fonction productive, contre ceux qui produisent. Et l'écriture est juste un cas particulier. L'écriture est juste une technique parmi d'autres. Ce n'est pas le cas général, le cas essentiel, c'est cette dévalorisation de la technique. Et l'écriture est juste une technique parmi d'autres qui est dévalorisée comme les autres techniques. C'est pour ça que, de manière globale, j'essaye de qualifier ces préjugés de préjugés contre la fonction productive, contre ce que Dumézil appelle ce que font les producteurs par opposition aux soldats, à ceux qui cultivent l'action, et aux prêtres, ceux qui cultivent la parole, on peut dire l'idée. Alors, on peut regarder cette déclinaison, c'est la manière dont ces préjugés s'expriment dans un certain nombre de domaines. Et un des domaines qui m'intéresse, c'est le domaine de l'art. Alors, pourquoi est-ce que l'art est intéressant? Enfin, il est intéressant à plein de points de vue, mais du point de vue qui nous occupe aujourd'hui, parce que l'art et la technique, le mot art et le mot technique, à l'origine, c'est le même mot. Donc, en grec, il y a un seul mot pour dire les deux, c'est techné. Et en latin, il y a un seul mot pour dire les deux, c'est ars. Et puis, c'est nos langues modernes qui ont un mot pour dire art et un mot pour dire technique. Et en fait, jusqu'à la Renaissance, il n'y a pas d'artistes, il y a des artisans qui fabriquent des choses qu'on peut appeler des œuvres d'art. Mais l'idée, notre conception moderne de l'art, elle s'est construite petit à petit entre la Renaissance et le 18e ou la fin du 18e siècle. Si vous prenez l'art égyptien, par exemple, des anciens Égyptiens, eh bien, il y a un art du portrait. Il arrive qu'on dessine, qu'on peigne la figure de quelqu'un. Mais si on peint la figure de quelqu'un, ce n'est pas pour dire c'est une œuvre d'art, c'est magnifique, on va la mettre au musée. Ça a une fonction très très précise. C'est que pour que la personne qui est peinte puisse passer dans le royaume des morts, on a besoin d'avoir son image. Alors, pour des raisons qui sont internes à la religion égyptienne. Mais de la même manière, quand on fait une jarre, on va peindre la jarre, on va décorer la jarre. Pensez, je sais pas, toutes les jarres grecques que vous avez pu voir dans les musées. Mais en aucun cas, on va faire une jarre pour la mettre dans un musée. On va faire une jarre pour mettre de l'eau, de l'huile, enfin des trucs dedans. Et donc, il n'y a pas de distinction entre la fonction utilitaire d'un objet et sa fonction esthétique. On fait des objets, on essaye qu'ils soient beaux, mais on ne fait pas d'objets juste pour qu'ils soient beaux. On fait des objets qui sont qui ont une fonction utilitaire. Et à l'inverse de ça, si vous prenez quelqu'un comme Picasso, Picasso vous défendra le point de vue que l'œuvre d'art ne doit servir à rien. Picasso, il va pas décorer la cruche que vous mettez sur votre table pour dîner. D'ailleurs, si jamais Picasso décore votre cruche, je vous conseille de ne plus l'utiliser pour la mettre pour dîner. Il vaut mieux la mettre dans un musée et avec l'argent que vous avez obtenu en la vendant, vous rachetez 1 million de cruches magnifiques. Picasso va même plus loin. Pour Picasso, le problème de la peinture, c'est en gros qu'il y a des bourgeois qui l'achètent. Donc il y a des gens qui vont acheter des Picasso et qui les mettent dans leur salon, comme si Picasso servait à ça. Donc on ne comprend plus très bien ce qu'il faut faire avec l'art. Si on suit Picasso, Picasso est tellement haut que même on n'a même plus le droit de regarder un tableau de Picasso et dire « Ah oui, c'est joli ». Non, il ne faut même pas que ça soit joli. C'est même pas le... Donc Picasso fait partie de ceux qui ont poussé, donc avec son sens de la provocation et du paradoxe, qui ont poussé cette idée que l'œuvre d'art ne doit servir à rien, à son maximum. Et ce qui est intéressant, c'est de la comparer. On s'en fout que l'œuvre d'art serve à quelque chose ou pas. Ce qui est important, c'est de voir que l'œuvre d'art, au départ, l'œuvre de l'artisan, l'ouvrage, ça ne s'appelait pas des œuvres, ça s'appelait des ouvrages, eh bien, avait une fonction utilitaire. Et puis tout d'un coup, on est arrivé à un point où l'œuvre d'art ne doit servir à rien. Et donc, aujourd'hui, la pire insulte que vous puissiez faire à un artiste peintre, par exemple, c'est de croire qu'il est peintre en bâtiment. Et pourtant, c'est le même métier. C'est intéressant de peindre, d'être peintre en bâtiment et d'essayer de faire quelque chose, une fresque, par exemple. Michel-Ange, donc on est à la Renaissance, c'est le moment où ça commence à changer. Michel-Ange est un peintre en bâtiment pas mal. Il a peint le plafond de la chapelle Sixtine. Si Michel-Ange voulait peindre mon plafond, je serais assez content. Mais aujourd'hui, les peintres, quand ils peignent un plafond, ils le font parce qu'ils ont besoin de bouffer ou parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur toile, mais c'est vraiment pas ce qu'ils veulent faire. Donc il y a vraiment cette division entre l'artisan d'un côté et l'artiste de l'autre où clairement s'exprime un préjugé contre la fonction productive. Ce que veulent les artistes, c'est pas produire. Et je crois que ce qui est triste, c'est que les artistes sont les premières victimes de ces préjugés. Par exemple, vous devez savoir qu'il y a un mouvement des intermittents du spectacle qui, depuis quelques temps, cherche à défendre ce statut d'intermittent du spectacle. Et il y a une pétition qui a été publiée il y a quelques années par 300, donc c'est beaucoup, réalisateurs, pour expliquer qu'il faut soutenir les intermittents du spectacle. Donc je ne vais pas discuter de savoir s'il faut soutenir les intermittents du spectacle ou pas. Ce que je veux discuter, c'est les mots qui sont employés dans cette pétition. Donc il y a une idée, c'est qu'il faut sortir de... Il ne faut pas... Donc leur pétition s'appelle « Aime le MEDEF ». Donc les cinéphiles apprécieront. Les autres, c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas à vous que parlent les cinéastes. Donc dès le titre, on a une référence culturelle qui marque le fait qu'on s'adresse aux gens qui savent qui est Fritz Lang. Les autres, c'est pas grave. Du coup, l'art sert à quelque chose. L'art sert à distinguer ceux qui connaissent Fritz Lang de ceux qui ne le connaissent pas. Mais bon, laissons ce point. Donc, dans cette pétition « Aime le MEDEF », les artistes appellent à résister contre le MEDEF et sa logique comptable aveugle. Et donc, bien sûr, d'où viennent tous les maux des artistes ? Des comptables. C'est la faute des comptables si on a un problème si les intermittents du spectacle ont un problème. Alors vous avez remarqué que les artistes attaquant le MEDEF, le patronat, attaquent la fonction productive. Et en particulier le fait que les producteurs, les commerçants, là ils ne sont pas commerciaux aujourd'hui, ce n'est pas des guerriers, c'est des commerçants, ils ont des comptables. Et les comptables, ils disent non, il faut payer, il ne faut pas payer, etc. Alors que n'importe qui dirait qu'il faut payer. Mais bien sûr, ils ne sont pas complètement idiots. Ils ont décidé d'attaquer la moitié de la fonction productive. Ils attaquent les patrons, ils n'attaquent pas les ouvriers. Donc, ce qui nous permet de nous dire, bon, ils sont du bon côté. Et cependant, on peut penser que c'est une alliance un peu tactique, parce que si vous regardez exactement leur texte, à un moment, ils disent il faut soutenir deux catégories de gens, les créateurs et les professionnels qui les entourent. Donc, quand il y a des gens qui font des films, Il y a les créateurs, il y a les professionnels. Donc les créateurs, c'est bien, professionnels. Ben, je ne sais pas, c'est les gens qui tiennent la perche, qui passent un coup de balai le soir. Ça, c'est les professionnels qui les entourent. Et en fait, ces deux groupes de gens ont des statuts différents vis-à-vis de l'intermittence du spectacle. Les intermittents du spectacle qui sont des professionnels, c'est-à-dire qui ne sont pas des artistes, sont mieux payés, parce que bien sûr, les artistes ont la rémunération symbolique du fait d'être artistes. Donc on s'aperçoit que il y a un certain nombre de préjugés qui s'expriment, mais qui sont victimes de ces préjugés? Ben malheureusement, c'est les intermittents du spectacle. Parce que si on compare les artistes aux scientifiques, par exemple, au XVIIIe siècle, ils vivaient un peu de la même manière. C'est-à-dire il y avait ceux qui avaient trouvé des mécènes et ceux qu'on n'avait pas trouvé. Ceux qu'on n'avait pas trouvé, ils étaient morts. Et ceux qui avaient des mécènes, ils essayaient de faire plaisir à leurs mécènes tout en continuant à faire leur production artistique ou scientifique de la même manière. Sauf que dans le milieu scientifique, les logiques comptables, fussent-elles aveugles, ont moins mauvaise réputation. Et du coup, il y a un certain nombre de gens, Jean Perrin par exemple, qui se sont intéressés à organiser des universités, organiser des instituts de recherche, essayer de diviser l'argent que donne l'État par le nombre de chercheurs pour essayer de voir si on peut payer tout le monde, etc. Donc, ils ont essayé de construire d'abord d'avoir une utilité sociale, d'enseigner dans les universités, d'avoir une logique comptable, d'essayer de faire vivre une structure, une entreprise, et d'essayer de payer tout le monde. Et à l'inverse de ça, on voit que les artistes préfèrent ne pas s'intéresser à ces logiques comptables et préfèrent aussi clamer qu'ils ne servent à rien. Et finalement, on s'aperçoit que deux siècles plus tard, eh bien, on peut penser que l'organisation de la recherche n'est pas parfaite, qu'on peut toujours l'améliorer tous les jours. Je participe à cette idée qu'elle n'est pas parfaite. Mais cependant, on a quand même fait beaucoup plus. Il y a beaucoup plus aujourd'hui de possibilités de vivre en faisant de la science qu'en faisant de l'art. Donc ces préjugés, les artistes en sont les premières victimes. Alors, ils en sont aussi les premières victimes dans leur rapport à la technique. Par exemple, aujourd'hui, on entend beaucoup l'idée que les artistes veulent contrôler ce qui se passe sur Internet. Bon courage. Bon courage, je leur souhaite d'arriver à contrôler ce qui se passe sur Internet. Mais ce qui est surprenant, c'est que les artistes devraient sauter de joie de vivre à l'époque où le net se développe. Ça fait des siècles que les artistes nous disent « mais il faudrait que tout le monde puisse participer à l'art, que tout le monde puisse voir des œuvres d'art, que tout le monde puisse accéder à des œuvres d'art. » Les artistes font des universités populaires pour que tout le monde puisse aller au musée, tout le monde puisse voir des films, etc. Ben ça y est, avec le net, c'est fait. Donc le grand rêve des artistes du XXe siècle, il vient de se réaliser, et la réaction des artistes, c'est-à-dire qu'il faut contrôler ce qui se passe sur le net. Et le net n'est pas juste un moyen de diffusion de leurs œuvres. Le net change complètement la nature même de ce qu'est une œuvre d'art. Prenez un exemple. Vous voulez écrire un roman. Avant, vous écriviez le roman, vous l'imprimiez, les gens pouvaient le lire. Maintenant, les gens peuvent participer à l'écriture du roman. Chacun, dans l'écriture de la fiction, chacun va écrire un petit bout de fiction. Donc la fiction est complètement différente. La fiction, c'est plus... Il y en a un qui écrit, les autres qui livrent. C'est chacun écrit un petit bout de fiction sur le net. Et puis bon, il y a des trucs qui sont lus, il y a des trucs qui ne sont pas lus. Mais cette distinction qu'il y a entre le producteur de l'art et le consommateur de l'art, elle est en train de complètement disparaître au profit d'autres organisations. Mais les artistes devraient être émerveillés de vivre cette époque, qui est l'époque la plus intéressante de l'histoire de l'art depuis l'invention de la perspective. Et leur approche est uniquement de dire non, c'est de la technique, c'est les techniciens qui nous ont foutu cet Internet dans les pattes, il faut qu'on revienne avant de décéder, voir des vinyles. Donc c'est dommage, ces préjugés nous encombrent les artistes tout autant que nous. Alors un autre domaine dans lequel ces préjugés peuvent s'exprimer, c'est nos discours sur la nature. Et tout d'abord, la nature, c'est un mot qui a une signification en science. Il y a des sciences de la nature. Il y a des sciences qui ne sont pas des sciences de la nature. Les sciences de la nature, c'est la physique, la chimie, la biologie, la géologie, la géophysique. Pour certains, les sciences humaines en font partie, pour d'autres, non. Donc, je ne vais pas discuter ce point. Et la nature a des synonymes. Donc, la nature, ses synonymes, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est le réel. Donc, la nature, c'est tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous entoure. Donc, Un écureuil fait partie de la nature. Un arbre fait partie de la nature. Parce qu'il existe. Il est dans le monde. Et une centrale nucléaire fait partie de la nature. Un être humain fait partie de la nature. Qu'est-ce qui ne fait pas partie de la nature ? Ben, un triangle, un nombre. Ça, c'est des idées. D'accord ? Vous pouvez chercher, vous n'allez pas trouver le nombre 4 ici. Peut-être vous allez trouver 4 pommes, mais pas le nombre 4. Le nombre 4, il ne fait pas partie de la nature. Donc, c'est ça la signification du mot nature en science. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, on a l'impression que cette signification du mot nature a complètement disparu. Les écureuils font partie de la nature, les arbres font partie de la nature, mais certainement pas les êtres humains, certainement pas les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires ne sont pas des produits naturels. Donc, le mot nature a pris une signification qui est devenue extrêmement difficile à comprendre. Quand un homme fait un barrage, c'est pas naturel. Un barrage là, sur un fleuve. Si un castor fait un barrage, il est naturel. Pourquoi ? Parce que le castor fait partie de la nature. Donc, le barrage du castor fait partie de la nature, mais l'homme ne fait pas partie de la nature, donc son barrage non plus. Pourtant, l'homme et le castor, on sait qu'on partage 99% de notre ADN en commun. Là. Donc, je ne sais pas, peut-être que si on faisait des barrages, non pas en ayant des ingénieurs qui fabriquent des barrages, mais je sais pas, on les faisait en remuant de la boue, tout d'un coup le barrage deviendrait naturel, j'en sais rien. Il faudrait peut-être qu'on imite les techniques du castor pour faire des barrages, et tout d'un coup ça deviendrait des barrages naturels. Mais on a ici une démarcation entre ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel, qui est extrêmement surprenante. Par exemple, un esquimau, c'est pas naturel, hein, c'est chimique. Mais chimique, ça fait partie de nature, hein, puisque la chimie, c'est une des sciences de la nature. On étudie les molécules qui existent dans la nature, qu'elles soient artificielles ou pas. Artificielle n'étant pas le contraire de naturel. C'est artificiel, fait partie de la nature, comme tout le reste. Donc apparemment, il y a des glaces qui sont naturelles. Si je reprends mon exemple de la glace de tout à l'heure, si la glace est faite par un pâtissier, elle est naturelle. Si elle est faite dans une usine, elle n'est pas naturelle. Donc c'est un concept qui est extrêmement, extrêmement difficile. Deuxième idée, la nature est parfaite. Alors ça, je le tiens de Yves Cochet. Donc Yves Cochet a écrit un article dans un journal qui s'appelle TGV Magazine, qui est le journal qui est gratuit dans le TGV. Et il parle de trois choses dans cet article, des OGM, des nanotechnologies et d'un truc nucléaire. J'ai oublié si c'était ITER ou autre chose. Bon, enfin bon, c'est... Et il dit, dans ces projets industriels, il y a un problème, c'est qu'on croit, ces projets supposent que la nature n'est pas parfaite. Et ils veulent améliorer la nature. Or, la nature est parfaite. Alors d'abord, je ne sais pas très bien parfaite par rapport à quel critère de perfection. D'accord, en général, on dit, voilà, un critère de perfection, c'est vous êtes capable de sauter 6 mètres à la perche, ça c'est parfait, ou 4 mètres, je ne sais plus. Vous avez un certain critère et vous êtes parfait par rapport à ce critère ou pas. Mais, parfait de manière complètement abstraite comme ça, comme seule la nature peut l'être, c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire. Donc cette nature est, on ne sait pas très bien ce que c'est. En plus, donc elle est parfaite selon Yves Cochet. Autre idée, elle est sacrée. C'est-à-dire si vous la transformez. Eh bien, c'est pas juste une transformation de la nature comme il en existe des milliers, mais vous la salissez. Et ça, c'est pas une idée récente. D'ailleurs, si vous prenez un objet sacré, un objet qui a été consacré, et que vous le transformez, vous le souillez. D'accord ? Il a une pureté du fait qu'il est sacré, et tout d'un coup, il est souillé. Donc ça se voit bien par exemple dans le fait que quand on émet des gaz à effet de serre, on pollue la nature. Polluer, ça veut dire souiller, c'est la même chose. Pourtant, il y a 4 milliards d'années, il n'y avait que du CO2 dans l'atmosphère terrestre. Donc il y a des bactéries qui s'appellent les cyanobactéries qui ont consommé ce CO2, ce gaz carbonique, pour fabriquer de l'oxygène. Qui a souillé la nature ? Est-ce que c'est la bactérie qui, avec ce gaz polluant qui est l'oxygène, qui a fait brutalement chuter la température sur la Terre, puisque, comme vous le savez, quand il y a du CO2, ça chauffe, c'est un gaz à effet de serre. Est-ce que c'est elle qui a pollué la nature? Est-ce que l'homme, en rebrûlant du pétrole de manière à rétablir l'équilibre de la nature sacrée, a dépollué la nature? Apparemment, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que la transformation du gaz carbonique en oxygène par la bactérie, elle est naturelle. Et puis à l'inverse, c'est nous qui polluons parce que nous, nous faisons des choses qui ne sont pas naturelles. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave de mettre du CO2 dans l'atmosphère de manière excessive. Mais pour qui est-ce que c'est grave? Qui est-ce qui va souffrir s'il y a trop de CO2? Mais s'il y a trop de CO2, la température va s'élever, et c'est nous qui allons souffrir, c'est nous qui allons chauffer, c'est nous qui allons avoir trop chaud. Donc, la raison pour laquelle nous ne voulons pas qu'il y ait du CO2 dans la nature, dans l'atmosphère, c'est parce que nous, ça nous dérange. Et c'est une raison suffisante. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait moins de gaz à effet de serre, parce que moi, ça me dérange. Mais la bactérie, ça ne la dérange pas, mais je m'en fous de la bactérie. Et donc, ce n'est pas parce que je respecte la nature que je pense qu'il ne faut pas brûler trop de pétrole et qu'il faut recycler le gaz à effet de serre. Mais c'est bien parce que moi, c'est mon propre désir. Et mon propre désir, il est tout à fait légitime. Mais en revanche, ce n'est pas le désir de la nature. Et attribuer son propre désir à la nature, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Alors, dernière idée sur la nature est une personne. Donc, vous savez que Yann Arthus-Bertrand a fait un film qui s'appelle Home. Et l'affiche du film vous dit, j'ai oublié la date, mais il nous dit, vous avez rendez-vous avec la nature. Non, vous avez rendez-vous avec la planète, pardon, avec la planète. Planète, P majuscule. Son planète n'est plus un nom commun. On ne dit pas, il y a 8 planètes. On dit la planète, c'est la planète sur laquelle on vit. Donc, il y a un article devant et un article défini et une majuscule. Et donc la nature est personnifiée. Alors d'où viennent toutes ces idées? D'où viennent toutes ces idées que d'abord transformer la nature, c'est mal? Bon, ça c'est facile. Technique, transformer, produire. On a vu d'où venait cette idée cette dévalorisation de la transformation. Alors, plus intéressant, d'où vient cette idée que la nature est sacrée? D'où vient cette idée que la nature est parfaite? D'où vient cette idée que la nature est une personne? Là encore, il n'est pas inutile de se tourner vers les anciennes religions, donc les religions, pensez à la religion grecque, la religion romaine, la religion des Grecs, la religion des Romains, plus exactement, et tout un tas de religions qui existaient en Europe qui sont de la même famille avant l'arrivée principalement du christianisme et plus généralement du monothéisme. Eh bien, vous avez des dieux et des déesses qui s'appellent l'aurore, qui s'appellent la terre, qui s'appellent les flots, qui s'appellent les fleuves. Donc, ce que nous identifions aujourd'hui comme étant la nature, c'est-à-dire la mer, le ciel, l'air, les fleuves, la lumière, l'aurore, etc., ce sont en fait ce que les anciens considéraient comme des dieux. Et du coup, ces dieux étaient des personnes, et ces dieux étaient sacrés. C'est le propre d'un dieu. Donc on voit que l'idée que nous nous faisons de la nature a une certaine filiation dans certains problèmes que nous rencontrons tous les jours. Le fait que nous transformons des molécules organiques en gaz carbonique, et il faut ou bien moins le faire, ou alors peut-être de manière plus intéressante, faire la transformation inverse, c'est-à-dire retransformer du gaz carbonique en des molécules organiques. Et donc ça, on sait que c'est possible, c'est compliqué, mais c'est peut-être une direction de recherche qui est plus intéressante que d'essayer juste de limiter la transformation de gaz carbonique, de molécules organiques en gaz carbonique. Mais ce discours qui a une certaine rationalité, qui a un discours qui dit quelque chose d'intéressant, est perturbé par des idées, des préjugés, qui font qu'on pense que la nature est nécessairement bonne, que la nature est nécessairement vertueuse, que la nature est nécessairement un équilibre. Il y a un exemple qui m'avait frappé, c'était, il y a un chimiste, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec lui, enfin, ce n'est pas le point que je discutais, qui a dit, c'est extrêmement simple, si on balance une tonne de soufre dans l'atmosphère, Ça va changer la manière dont l'énergie lumineuse pénètre l'atmosphère. Une partie de cette énergie va être reflétée par le soufre et renvoyée vers l'extérieur de l'atmosphère. Et donc, il va y avoir moins d'élévation de la température. Et bon, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de balancer autant de soufre que ça. Cependant, il y a eu une explosion volcanique, il y a 7 ans maintenant, je pense, qui a balancé une quantité extraordinaire de soufre dans l'atmosphère. Et alors là, tout le monde s'est réjoui. On a dit « formidable, on a du soufre dans l'atmosphère, donc la température va moins s'élever ». Alors, naïvement, j'ai dit « mais attendez, il y a 15 jours, on est en train de dire que ça serait jouer aux apprentis sorciers, perturber la nature, ça serait, on ne sait pas ce qui va se passer, les pluies acides et blablabla ». Maintenant, c'est un volcan qui balance l'énergie, le soufre dans l'atmosphère. On devrait se plaindre que les dieux nous envoient tous les maux sur la Terre en même temps, puisqu'on a cette explosion d'un volcan qui pollue. Ah, mais c'est pas de la pollution, c'est le volcan. C'est la nature. Ça fait partie de l'équilibre naturel. Il faut juste on peut s'en réjouir, apparemment. Et c'est pas grave. Ça n'a pas tous les effets secondaires potentiels de pluie acide, etc., qu'avait si l'homme avait jeté du soufre dans l'atmosphère. Je n'ai pas d'avis sur le fait de jeter du soufre dans l'atmosphère. Je ne me réjouis pas quand un volcan balance du soufre dans l'atmosphère non plus. Je ne suis pas non plus fâché. Enfin bon, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre si du soufre dans l'atmosphère peut améliorer la situation ou la dégrader, de notre point de vue, pour nous. En revanche, je ne pense pas qu'il y a une différence énorme entre si des hommes balancent du soufre dans l'atmosphère et si un volcan balance du soufre dans l'atmosphère. Je pense qu'il faut se réjouir dans les deux cas ou se lamenter dans les deux cas. Bon, on ne peut pas se réjouir dans un cas et se lamenter dans l'autre. Donc on voit ici comment tout un tas de préjugés sur le fait que ce que fait le volcan est bien, ce que font les hommes est mal, eh bien, nous amène à mal penser ces problèmes qui sont des problèmes extrêmement difficiles et qui sont des problèmes qui demanderaient toute notre intelligence pour être résolus. Alors, je vais juste dire un tout petit mot avant de conclure sur une question qui m'a été souvent posée, à laquelle je ne sais pas répondre. Une question qui m'a été souvent posée, à laquelle j'ai quelques éléments de réponse. Alors, la question qui m'est souvent posée, à laquelle je ne sais pas répondre, c'est est-ce que ces préjugés que je dénonce, ces préjugés contre la fonction productive, c'est-à-dire contre la technique et contre l'écriture, sont propres à la France ? Propre à Tens, peut-être. Je pense pas. Propre à la France, propre à l'Europe. Est-ce qu'ils sont bons duos, etc. Et ça, je n'ai pas assez étudié le problème. Comme je vous l'ai dit, bon, moi, je m'intéresse à des problèmes scientifiques. En réfléchissant sur la science, j'ai été amené à réfléchir sur l'image de la science. En réfléchissant sur la technique, j'ai été amené à réfléchir sur l'image des études pour savoir quels sont les préjugés des Maasai, des Pygmées, des Inuits pour essayer de comparer avec les nôtres. Et donc, je ne sais pas répondre à cette question sur la géographie. J'ai quand même une anecdote. Cet été, j'étais en Colombie. Je rendais visite à un ami qui est colombien, de mes anciens étudiants, qui est colombien. Et donc, j'ai essayé de lui raconter ce que j'écrivais comme livre à l'époque. Et il me disait, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Un ami qui est colombien, de mes anciens étudiants, qui est colombien. Et donc, j'ai essayé de lui raconter ce que j'écrivais comme livre à l'époque. Et il me disait, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Alors, je lui ai dit, je vais prendre un exemple. Et je lui ai dit, par exemple, lycée technique. Tu vois bien que le mot technique, dans lycée technique, c'est dévalorisant. Il vaut mieux aller au lycée de formation générale. Il me dit, mais je comprends encore moins ce que tu racontes, puisque à Bogota, le lycée technique, c'est le meilleur lycée de Bogota. Ah, là, je me suis dit, tiens, alors, est-ce que c'est Bogota? Est-ce que c'est l'Amérique latine? Est-ce que c'est juste la Colombie? J'en sais rien. Je me suis dit, tiens, il y a des endroits où, technique, espoir qu'un jour la Colombie envahisse le monde et qu'on n'ait plus de préjugés contre la technique et contre l'écriture. Donc, c'est des questions difficiles. Par exemple, sur l'enseignement de l'informatique, il y a des pays au monde où on enseigne l'informatique à tous les lycéens. Par exemple, tous les pays du Maghreb. Il y a des pays au monde où on enseigne l'informatique à tous les lycéens. Par exemple, tous les pays du Maghreb. Par exemple, l'Autriche. Alors, quel est le point entre le Maghreb et l'Autriche? qui fait que les préjugés au Maghreb et en Autriche sont différents de ce qu'ils sont en France, je n'ai aucune idée. En France, je n'ai aucune idée. En revanche, une idée à laquelle j'ai un tout petit peu plus de réponses, même si c'est des réponses très imparfaites, c'est est-ce que ces préjugés ont tout le temps été là ? Est-ce qu'au cours de l'histoire, et bon, si je répondais oui, ça serait à la fois une réponse pas très originale, mais aussi un peu désespérante. Est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire où on a eu un peu moins de préjugés contre la science et contre la technique ? Alors, il me semble qu'il y en a eu plusieurs, mais celui qui est le plus proche de nous, c'est le siècle des Lumières. Et le siècle des Lumières, je le fais commencer, en fait, ce que j'appelle le siècle des Lumières, ça dure 2 siècles. J'inclus le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle dans cette période. Et je fais en gros démarrer les Lumières avec Galilée, donc c'est une définition des Lumières qui m'est très, très personnelle. Mais je crois qu'il y a eu, à partir de Galilée, c'était quand même quelqu'un, par exemple, qui considérait que fabriquer une lunette, c'était quelque chose d'aussi important que il n'y avait pas le prolétaire qui faisait la lunette et l'astronome qui réfléchissait. Il y avait la fabrication de la lunette. Galilée avait compris que fabriquer une lunette, c'était quelque chose qui allait changer l'astronomie tout autant que la théorie. Et Galilée est aussi celui qui, je l'ai juste évoqué un tout petit peu, a proposé d'utiliser des mathématiques en physique et donc est allé contre cette idée qu'il y avait une hétérogénéité entre monde mathématique et monde physique. Donc les objets sont différents, mais néanmoins, les uns peuvent être utiles pour. Les formules mathématiques peuvent être utiles pour comprendre le monde. Pédis s'appelait l'encyclopédie des arts et des métiers. Et les arts est à prendre dans le sens de artisan, pas dans le sens de artiste. Regardez Voltaire. Voltaire a traduit Newton. Je ne sais pas quel philosophe aujourd'hui traduirait un scientifique, un physicien, un astronome. Étranger. Regardez Leibniz. Leibniz est une œuvre philosophique et une œuvre mathématique tout aussi importante. Et donc on voit qu'il y a eu deux siècles tout aussi importantes. Et donc on voit qu'il y a eu deux siècles où l'opposition qu'il y avait entre science et technique, l'opposition qu'il y avait entre science et philosophie, entre technique et philosophie, était moindre qu'aujourd'hui. Il y avait une division qui était moins importante. Alors qu'elle l'avait été, elle l'a été après, mais elle l'avait été avant. C'est-à-dire, c'est pas juste la spécialisation qui fait qu'aujourd'hui, science et technique sont très séparées. Puisque avant, au Moyen-Âge, par exemple, la philosophie et les mathématiques se parlent quasiment pas. Donc il y a une singularité du siècle des Lumières. Alors on aurait pu penser que ça y est, on était en bonne voie d'être débarrassé de tous ces préjugés qui nous encombraient au siècle des Lumières, et ils sont revenus à la fin du XVIIIe d'une manière extrêmement violente avec le romantisme. Et c'est en gros le romantisme qui nous a amené à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Avec le romantisme, dans mon livre, je me suis dit, s'il faut que je me lise tous les romantiques, ça va être long. Donc je me suis dit, je vais prendre un romantique et je vais essayer d'utiliser un corpus unique et de tout axer à partir de... Et donc je me suis focalisé sur Novalis. Et Novalis, donc, qui est un des tout premiers romantiques. Et Novalis, c'est un petit musée à lui seul. C'est-à-dire, Novalis explique que artiste, c'est bien, artisan, c'est pas bien. Donc, il évoque à un moment un jeune poète. Et il dit, son père avait déjà des prédispositions pour la poésie, mais malheureusement, il était tellement borné qu'il est devenu artisan. Donc, ça, c'est le point de vue sur la relation entre l'art et l'artisanat, selon Novalis. Alors, Novalis a une vision de la nature très fleur bleue, parce que tout le livre de Novalis raconte comment le héros va dans la montagne chercher une fleur bleue, dans les pétales de laquelle flotte un visage délicat. Alors, on peut apprécier ce genre de poésie ou non, mais disons la nature est sanctifiée et sacralisée de cette manière. Alors, de manière plus surprenante, chez un auteur aussi fleur bleue que Novalis, il y a une valorisation de la guerre qui est absolument surprenante chez Novalis. Novalis explique que les guerriers sont les seuls à être au même niveau que les poètes. Et les guerres sont les plus beaux poèmes qui existent. formidable. Et il y a une dévalorisation de l'écriture chez Novalis qui est surprenante chez un poète. Donc d'abord, le livre de Novalis raconte l'histoire d'un poète, mais qui n'est pas un poète qui écrit des vers, qui est un poète qui les chante. Donc c'est un troubadour. Hein. Et puis, donc il y a bien sûr l'idée que les formules arithmétiques sont sèches, la sécheresse des formules arithmétiques chez Novalis, mais il y a une idée beaucoup plus intéressante. Il y a un moment, un scribe qui apparaît. Donc on est dans un roman qui se passe au 19e siècle, mais c'est pas grave, il y a un scribe, parce que tout d'un coup, on se met à raconter une histoire ancienne. Et dans cette histoire ancienne, il y a un scribe, qui est la personne la plus horrible qui puisse exister, c'est le méchant de l'histoire. Et que ce qui se passe, c'est qu'il écrit des trucs sur un parchemin, mais après on trempe le parchemin dans une épreuve de vérité, dans une espèce de coupe où il y a des grenouilles qui sortent de... Et à chaque fois, le parchemin est lavé, parce que ce qu'écrivait le scribe n'avait pas de valeur. Et le scribe, d'ailleurs, c'est intéressant aussi que le scribe fait la grimace à chaque fois qu'il se rend compte qu'un autre des personnages se souvient des histoires beaucoup mieux que lui. Et lui qui veut noter l'histoire, il est obligé de demander à celui qui se souvient comment les détails de ce qu'ils ont vécu. Et donc au début, je pensais, je me suis dit, bon, je vais me limiter à Novalis, je ne vais pas pouvoir tout raconter, mais il faut bien que je m'organise. Et en fait, tout est dans Novalis. Tous ces préjugés reviennent d'une manière extrêmement... Alors, j'ai rien contre Novalis. Hein. D'abord, c'est pas si mal. D'un point de vue purement littéraire, c'est assez intéressant. Je pense que si j'avais pas pris Novalis, mais un autre romantique, je serais arrivé à des conclusions au moins similaires. J'ai dit le romantisme nous a laissé dans la situation dans laquelle on est. Ce que j'entends par là, c'est qu'on vit dans un monde dans lequel essentiellement ces idées romantiques dominent. Ok. On vit essentiellement dans un monde où la technique est dévalorisée, où l'humain prime sur les chiffres. L'humain, c'est bien, les chiffres, c'est mal. Bon. Mais il reste possible, dans le monde dans lequel on vit, d'être de l'autre côté. Il reste possible de rester fidèle aux Lumières. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est-à-dire, il y a une vraie lutte idéologique entre l'ombre et les Lumières. Et... par exemple, il reste possible aujourd'hui d'écrire des encyclopédies. J'ai parlé des encyclopédistes au XVIIIe siècle, mais aujourd'hui, il s'écrit des encyclopédies. Par exemple, Wikipédia. Donc, il y a une innovation dans l'encyclopédie aujourd'hui qui est tout à fait comparable à celle du XVIIIe siècle. Donc, on vit dans un monde qui est essentiellement dominé par le romantisme, mais il reste possible d'être fidèle aux valeurs des Lumières. Et cette opposition entre l'ombre et les Lumières... elle s'est incarnée de nombreuses fois. Par exemple, en 1929, il y a eu une réunion philosophique à Davos. Donc, c'était pas encore la station de ski qu'on connaît, mais c'était au même endroit. Et là, se sont opposés Cassirer et Heidegger. Et donc, Cassirer, c'est le philosophe des Lumières au XXe siècle. C'est un des philosophes des Lumières. Enfin, c'est le philosophe des Lumières le jour de Davos. D'ailleurs, les gens qui sont repartis de Davos, paraît-il, ont dit Cassirer a l'air d'être un rationaliste un peu étroit. Et à l'inverse de ça, il y avait Heidegger qui appelait à la destruction du logos, de la raison, et je ne sais quoi d'un troisième truc. Bon. Donc on voit bien ces deux types d'idées. Alors il y a quand même un événement que j'ai déjà évoqué qui a failli coûter la vie au romantisme, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le régime nazi, avec ses autodafés, son culte païen de la nature, son culte de l'action, et en particulier de l'action militaire, sa science arienne, l'adhésion de Heidegger, avait quand même un peu chargé la barque pour le romantisme. C'était un peu... on aurait pu penser qu'avec la fin de la défaite militaire et idéologique du nazisme... mais ces préjugés romantiques allaient un peu en prendre un coup dans l'aile et que les Lumières allaient revenir. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, bizarrement. Et il y a eu une espèce de jeu idéologique qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, où la responsabilité du nazisme, on l'a fait porter, non pas au romantisme, mais précisément aux Lumières, mais à la raison. Et donc il y a tout un travail de... Adorno et Horkheimer, de Hannah Arendt, de Habermas, qui sont là pour expliquer que le massacre que les nazis avaient organisé, c'est un massacre rationnel. Alors pourquoi c'est un massacre rationnel ? Parce que ces philosophes ont eu raison sur un point, c'est que massacrer 12 millions de personnes en quelques mois, c'est beaucoup, c'est difficile. C'est pas, c'est... Et donc, ça avait demandé une organisation complexe. Et c'est vrai. Et organisation complexe, donc, industrie. Industrie, donc, technique. Technique, donc, science. Science, donc, raison. Et donc, on lit, par exemple, sous la plume de Adorno et Horkheimer, que c'est un massacre absolument rationnel, parce qu'il a été organisé selon des méthodes industrielles. Et donc, après Hiroshima, Nagasaki, etc., tout est devenu la faute de la science. C'est-à-dire, bizarrement, cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale, qui aurait pu porter un coup fatal à ces préjugés, les a plutôt renforcés. En faisant porter les crimes du nazisme à la raison. Et donc ça c'est une idée qu'on retrouve juste après la guerre, donc avec des auteurs comme Adorno, mais également plus proche de nous. Par exemple, Habermas écrit un livre qui s'appelle « La science et la technique vue comme une idéologie ». Donc on a l'impression qu'on essaie de sortir de l'idéologie entre la science et la technique. Non, au contraire, Habermas nous dit qu'on y revient. Alors, il est l'heure qu'on va conclure. Et la dernière question à laquelle je voudrais répondre, c'est est-ce que ces préjugés, finalement, c'est embêtant qu'ils soient là ou est-ce qu'on peut vivre avec ? Donc manifestement, on peut vivre avec. Est-ce qu'ils entravent le développement de la science et de la technique ? Ben, pas vraiment, en fait. C'est pas la science et la technique qui sont entravées par tous ces préjugés. Y a des gens qui n'aiment pas les médicaments non naturels, qui pensent qu'il faut soigner avec des médicaments naturels. Ce sont ces gens, bon, quand ils ont une maladie grave, il y en a extrêmement peu qui refusent les médicaments chimiques. Je ne sais pas ce que veut dire chimique, naturel dans leur langage, mais je vais utiliser leur langage. Il y a des médicaments naturels, il y a des médicaments chimiques, ils se soignent avec des médicaments naturels, mais quand ils sont vraiment malades, ils utilisent des médicaments chimiques. Et c'est heureusement, parce que je crois qu'on serait... Il y a un petit nombre de gens qui essayent de se soigner uniquement avec des médicaments naturels et qui vont jusqu'au bout de leur démarche et qui préfèrent se laisser mourir plutôt que prendre des médicaments chimiques. Mais fort heureusement, et on peut s'en réjouir, ils sont peu nombreux. De la même manière, il y avait un article dans le Figaro qui expliquait qu'on vivait dans un monde technologique horrible, etc. Bon, cet article, je l'ai quand même trouvé en ligne. Donc, on ne peut pas dire que... le développement de l'informatique, le développement d'Internet, le développement des réseaux, le développement de quoi que ce soit, était freiné par ces préjugés. Bon, donc on peut dire que c'est peut-être pas si grave, et c'est l'avis de beaucoup de scientifiques et de beaucoup d'ingénieurs en disant laissons ces préjugés se développer, c'est pas ça qui nous pose un problème. Alors moi, je crois pas que... Je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il y a un vrai problème, et le vrai problème, c'est pas que la technique, le développement technique ou le développement scientifique est entravé, mais c'est que le développement technique et le développement scientifique demande que nous développions une nouvelle morale. Et par exemple, les allumettes, qui sont une invention technique extrêmement puissante, les allumettes permettent de faire des autodafés, de brûler des livres, elles permettent aussi de brûler des gens, elles permettent aussi de chauffer les maisons, elles permettent aussi de stériliser les instruments chirurgicaux, donc... il est banal de remarquer que les allumettes sont capables du meilleur comme du pire. À partir du moment où on a inventé les allumettes, il se pose de nouvelles questions morales. Qu'est-ce qu'on va faire avec les allumettes ? Et c'est cette morale qu'on a un problème à développer aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on a un problème à développer cette morale ? Ben, j'ai l'impression qu'une des raisons qui fait ça... Il y a une expression que j'aime bien, c'est une expression de Michel Puech qui dit... Michel Puech a écrit un livre qui s'appelle « Homo sapiens technologicus », où il explique que après avoir été différentes étapes du développement de l'hominisation et de l'humanisation, nous sommes arrivés à un nouvel homme qui est l'homo sapiens technologicus. Et en fait, il dit « c'est pas tout à fait vrai, nous sommes des homo technologicus ». Et nous essayons de devenir des homo sapiens technologicus. Mais pour devenir des homo sapiens technologicus, il nous manque encore la sagesse, il nous manque encore cette morale qui nous permet de savoir ce que nous voulons faire de la technique. Et dans bombe atomique, où est le problème? C'est dans atomique ou c'est dans bombe? Moi, je crois que c'est dans bombe. Je crois qu'on n'a pas attendu la bombe atomique pour massacrer beaucoup de gens. Et je crois que ce qui pose un problème dans la bombe atomique, c'est le fait que ce soit une bombe, ce n'est pas vraiment le fait qu'elle soit atomique. Je crois qu'en revanche, nos préjugés nous amènent à penser que ce qui est horrible dans la bombe atomique, c'est qu'elle est atomique. Et ces préjugés, en fait, mon impression, c'est qu'ils entravent le développement, non pas de la science et de la technique, comme je le disais, mais de cette morale qui devrait aller avec la science et la technique. Puisque à chaque fois que nous devons discuter de savoir si une innovation technique particulière est bonne ou mauvaise, on verra, c'est technique, c'est mauvais. Et même si une utilisation particulière d'une innovation technique est bonne ou mauvaise, là, nous arrivons toujours avec un préjugé qui dit non, c'est la technique, c'est mauvais, c'est naturel, c'est bon. Et donc, si nous restons avec des idées aussi simples que quand c'est naturel, c'est bon, quand c'est le volcan qui met du soufre dans l'atmosphère, c'est bon, quand c'est la technique, un ingénieur, c'est mauvais, mais je crois que ça, c'est un handicap pour développer cette morale. Et aujourd'hui, où les objets techniques sont partout, hein, y a plus de technique là-dedans que dans une machine à vapeur, que dans une locomotive, développer cette morale est devenu une urgence. Et malheureusement, le développement de cette morale est entravé par ces préjugés qui, après tout, ont quand même entre 3000 et 7000 ans. Donc peut-être il serait temps qu'on commence à s'en débarrasser. Merci. Maintenant, c'est le moment que je préfère, c'est le moment des questions et de la discussion.
Donc, vous faites une opposition entre la caste, si j'ose dire, des guerriers et celle des producteurs, et vous faites donc remonter ça aux civilisations post-monothéiques, et vous ne pensez pas qu'après, cette opposition est allée du clair, du religieux au producteur? J'y pensais quand on parlait de la perfection de la nature, etc. Et la technique est un peu peut-être une déconstruction, une désacralisation de cette création, si j'ose dire.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, j'ai été rapide quand je disais que dans les civilisations anciennes, européennes anciennes, il fallait opposer le producteur au guerrier. Parce qu'il y a vraiment trois castes qui s'opposent, et donc on oppose le producteur autant aux guerriers qu'aux clercs. Et alors effectivement, la technique, les clercs ont eu raison de la rejeter, puisque la technique est une opération de transformation du monde, et cette transformation du monde, elle est plus ou moins consubstantielle à l'humanité, c'est-à-dire dès qu'il y a eu des hommes, il y a eu de la transformation du monde. Dès que vous mettez un toit au-dessus de votre tête, vous avez transformé le monde. L'état naturel, c'est d'être mouillé quand il pleut. Et donc, cette idée de transformation du monde, elle va clairement contre cette idée d'un monde sacré, d'un monde intouchable. Et donc, aujourd'hui, les deux oppositions existent. L'opposition qui dit il ne faut pas transformer le monde, il ne faut pas jeter de soufre dans l'atmosphère, elle est là dans une opposition de la technique et du clair. Mais l'opposition entre le guerrier et le technicien existe aussi. J'ironisais un peu sur le vocabulaire du marketing, sur le vocabulaire des écoles de commerce. Clairement, une des raisons pour lesquelles les écoles de commerce sont cool par rapport aux écoles d'ingénieurs, c'est qu'on y apprend à faire la guerre. Donc c'est plus rigolo que d'apprendre à construire des centrales ou des médicaments, être en blouse blanche toute la journée derrière un écran d'ordinateur, etc. L'action, c'est mieux. Donc je crois que les deux oppositions continuent à exister. Mais voilà une question fort peu polémique.
Ça va venir peut-être. Si vous voulez lancer.
Pardon. Monsieur, je trouve que c'est très bien ce que vous avez dit au point de vue technique. Parce que souvent dans les écoles, quand un enfant a plus ou moins envie des études, quoi, on lui dit écoutez, il n'est pas bon à l'école, on va le diriger dans le technique. Je trouve que c'est moche de dire ça.
C'est doublement moche. C'est d'abord moche pour la technique, puisqu'il faut envoyer les meilleurs élèves devenir faire de la technique. On a vraiment besoin de toute l'intelligence de la planète pour transformer et faire face aux défis qui vont se poser à nous. Bon, après, il y a une autre question, c'est que cette opposition entre technique et pas technique a fait qu'on a réussi à faire deux filières qui sont quasiment étanches, et ça, en soi, c'est déplorable. C'est-à-dire le fait que si vous faites deux filières, une générale et l'autre technique, mais ça serait pareil s'il y en avait une verte et l'autre rouge. Ou... Dès que vous avez deux filières, bon, il y a une hiérarchie qui va s'instaurer, et donc vous allez orienter des jeunes extrêmement tôt vers une filière ou vers l'autre. Alors que si la technique était enseignée comme les sciences, comme la littérature, comme la philosophie, comme l'histoire géo, dans les lycées normaux, un avantage qu'on aurait, c'est qu'il n'y aurait déjà pas cette division entre deux types de lycées, et donc il n'y aurait pas de possibilité de hiérarchisation. Alors, bien entendu, c'est à la fois vrai et un petit peu faux, puisqu'il reste possible de faire une hiérarchisation à l'intérieur même, par exemple, il y a une hiérarchisation entre les différentes sections du lycée général. Il y a d'ailleurs une hiérarchisation aussi entre les différentes sections du technique. Mais bien sûr, ces hiérarchies sont beaucoup moins grandes que si vous, très tôt, vous coupez en deux systèmes en disant il y a ce qui est technique et puis il y a ce qui est général. Alors oui, tout à fait. Je suis extrêmement fâché du nom de cette école, puisque cette école met toute ma théorie en pièces, puisque c'est la seule école qui a un nom, qui a le mot technique dans son nom, et où c'est pas péjoratif. Toute cela ma théorie étant, est ruinée juste par cet unique exemple. Alors,
cela étant, un polytechnicien, c'est pas toujours. Mais quand on dit c'est bien une idée de polytechnicien, oui, c'est pas toujours amélioratif. Hein.
C'est pas toujours amélioratif. Mais alors, cependant, je me souviens d'un discours le jour où je suis moi-même entré à l'école polytechnique et où le directeur de l'école nous a dit attention, l'école s'appelle polytechnique, mais c'est pas une école technique. C'est une école polyscientifique. Alors, dans ce cas-là, j'ai dit mais pourquoi on l'appelle pas l'école polyscientifique ? Et elle m'a dit, mais non, c'est un vieux nom. Donc, on va garder le nom tel qu'il est, mais il n'a plus de signification. Non, ce qui est vrai aussi, c'est que l'école polytechnique a été créée au XVIIIe siècle par des hommes des Lumières pour qui le mot technique n'avait pas une signification péjorative. Et donc là, il nous reste cette anomalie qui vient du fait que les romantiques n'ont pas réussi à changer le nom de l'école polytechnique, qui a gardé un vieux nom qui date des Lumières.
Cela étant, cette scission, elle est quand même aussi préjudiciable à la technique, puisque pour vous appeler de vos voeux une nouvelle morale, il faut donc aussi les techniciens, ceux qui relèvent de la fonction productive y participent. Et si effectivement, on opère une scission, voire une hiérarchie entre ces questions philosophiques et la technique, ça veut dire aussi que de toute façon, la technique ne peut pas poser ces questions de ce qui pose problème entre bombe et atomique, on va dire. Et de toute façon, la technique avançant, elle finit par créer un état de fait et on ne se pose pas de questions sur... Enfin, le clonage existe bien avant qu'on se demande si...
Oui, bien sûr. Donc, je vais dire du mal de gens que j'aime beaucoup. L'institut auquel j'appartiens, qui s'appelle l'INRIA, qui est un centre de recherche en informatique et en automatique, se pose la question de créer un comité d'éthique. Donc, vous savez qu'il y a des comités d'éthique pour tout, pour le... beaucoup pour la recherche médicale. On a compris très tôt que découper les gens en morceaux, etc., ça posait des problèmes éthiques. Il y avait des choses qu'on pouvait faire, des choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais il y a énormément de problèmes éthiques qui se posent en informatique. Et un des changements vraiment radicaux qu'on est en train de vivre, c'est on va arriver, sauf si on fait quelque chose contre, on risque d'arriver, voilà, dans un monde où on n'oublie rien. Donc, aujourd'hui, Franz Kafka a voulu qu'il ne reste de lui qu'une photo. Une photo où il fait la gueule, c'est Franz Kafka torturé. Et manque de bol, il en a laissé échapper une deuxième où il est en slip de bain sur la plage. Donc, on n'a que deux images de Franz Kafka, celle que vous connaissez, qui est au dos de tous les bouquins, etc., et Franz Kafka en train de jouer au volley en slip de bain sur la plage. Et finalement, ça avait l'air d'être un joyeux de riz, Franz Kafka. Donc, on vit maintenant une époque où un projet comme Franz Kafka serait complètement impossible. Alors vous baladez dans la rue, vous avez déjà été pris en photo par tous les gamins qui ont un téléphone portable, la caméra de vidéosurveillance, etc. Mais également, Google se pose une question, les requêtes que vous avez tapées, est-ce que il faut les garder ou est-ce qu'il faut les détruire? Alors il y a des historiens qui disent génial, on va pouvoir savoir, monsieur, que vous avez cherché des documents sur le marquis de Sade le 22 janvier à 18h. Que faisiez-vous exactement? Bon. Il y a d'autres gens qui disent, attendez, si monsieur cherchait des informations sur le marquis de Sade, ça le regarde. Et donc cette information, elle est privée, elle doit disparaître. Et en particulier, je sais pas, imaginez la biographie de Galilée avec toutes ses requêtes. Qu'est-ce qu'il a fait tel jour à telle heure? Ah tiens, là, il a demandé la recette du pot-au-feu, il devait faire un pot-au-feu ce jour-là, etc. Bon. Donc il y a à la fois des détails privés, des détails triviaux, il y a des choses... Bon. Mais on va vers une société où il devient possible que tout laisse une trace, que rien ne s'efface. Ouais, ça pose des problèmes éthiques qui me semblent beaucoup plus importants de savoir s'il faut mettre un pacemaker dans telle ou telle situation. Là, je crois qu'on a vraiment les vrais problèmes éthiques qui sont là. Enfin, bon, tous les problèmes sont importants. Et alors, je me suis intéressé à la création de ce comité d'éthique, et là, j'ai entendu des trucs, et celle-là, je vais dire du mal de mes amis, j'ai entendu des trucs qui font froid dans le dos. Par exemple... des chercheurs qui disent ça serait bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent aux problèmes d'éthique, comme ça on en serait débarrassé, on n'aurait pas besoin d'y réfléchir. Je disais, en fait, on aimerait bien que le comité ait exactement l'effet inverse. On aimerait bien que du fait qu'il y ait un comité, ça nous incite tous à réfléchir aux questions éthiques, mais comme c'est des questions complexes, eh bien, s'il y a un comité qui peut un peu orienter, qui peut un petit peu poser les problèmes, nous donner les outils pour essayer de répondre à ces questions. Donc il est vrai que parmi les techniciens, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas trop conscients de la nécessité de développer cette morale. Et je le déplore, mais c'est comme ça.
Je vous apporte le micro. Attendez, je vous apporte le micro. Je vous remercie.
Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle et de la capacité future aux robots à réfléchir à notre place?
Alors, je ne vais pas répondre sur le fond de la question. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ça s'appelle intelligence artificielle. Et à quoi ça s'oppose? Est-ce que ça s'oppose, par exemple, à l'intelligence naturelle?
Ah ben, parce que je ne m'estime pas une machine et qu'un robot est une machine.
Donc, machine artificielle, humain naturel. Ouais, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est les processus par lesquels nous avons des idées, les processus par lesquels nous enchaînons des idées, nous faisons des calculs, nous faisons des raisonnements, dans un cadre scientifique, dans un cadre éthique, dans un cadre quotidien, comment faire pour verser de l'eau ici, est-ce qu'il faut ouvrir le bouchon d'abord ou après, ou mettre la bouteille à l'envers, etc. Donc, toutes ces questions qui se posent à nous, que notre cerveau résout, comment est-ce que ça marche? Et comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au fait d'être un être humain qui fait que ça marche différemment de la manière dont ça pourrait marcher dans une machine? Est-ce que finalement, un être humain et une machine, c'est pas si différent? Donc, c'est les mêmes processus qui se passent. Donc, ça, c'est les questions qui sont intéressantes. Les questions qui ne me semblent pas intéressantes, c'est les questions de dire, est-ce qu'une machine pourrait penser? Penser, c'est tellement vaste. Est-ce qu'une machine peut faire une multiplication? Oui. Est-ce qu'une machine peut démontrer le théorème de Pythagore? Oui. Est-ce que une machine peut tomber amoureux? Je ne sais pas si vous dire amoureux ou amoureuse. Est-ce qu'une machine peut tomber amoureuse? Non, mais pourquoi pas? Donc, pourquoi pas? Oui, voilà la question intéressante. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Et ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Mais le drame, enfin, il y a deux drames dans l'intelligence artificielle. Mais c'est un robot qui saurait verser de l'eau là dans ce verre serait hyper intelligent. C'est une forme d'intelligence. Et voilà, donc on ne sait pas ce qu'est l'intelligence. On sait que les machines, c'est artificiel, les hommes, c'est naturel. C'est naturel. Dans ce cadre-là, parce qu'il y a d'autres cadres où vous avez compris, l'homme, c'est ce qui n'est pas naturel. On colle artificiel pour dire machine à un mot qui est intelligence, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc ça, j'en pense pas le plus grand bien.
C'est quand même une réponse.
C'est quand même une réponse que j'ai donnée? Ah, d'accord. Bon. Oui.
Ça
Oui, oui. Donc, est-ce qu'une machine peut avoir un libre arbitre? Oh alors là, vous connaissez mal les machines. Hein. Les machines qui ne veulent pas répondre, c'est plutôt le cas général. Non, bien sûr, c'est des questions importantes. Mais les poser en termes dogmatiques de « il y a de l'intelligence, il y a de l'artifice, est-ce que les deux peuvent aller ensemble ?» c'est pas la bonne manière de poser les questions, je crois. On sera confronté à quoi? Des... Ah mais ça, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Là, chez moi, le thermostat vient de mettre la chaudière, là, parce que c'est une machine qui a pris une décision de chauffer la maison. Non, mais regardez, quand Pascal a fait la machine à calculer...
Est-ce que c'est une bonne décision, à partir du moment où vous n'êtes pas là, de surchauffer votre appartement?
Non, j'ai pas dit surchauffer, j'ai dit chauffer un peu, parce que je rentre après, j'aimerais bien que la maison ne soit pas complètement glaciale. Quand Pascal a fait la machine de Pascal... La machine de Pascal, elle ne fait que des additions, elle ne fait pas de multiplication parce que c'était trop compliqué, Pascal ne savait pas faire ça. C'est Leibniz qui a fait la première machine qui a fait des multiplications. Pascal a dit, on a une machine qui sait faire des additions. Les gens ont dit, mais c'est juste pas possible. Les additions, il n'y a que les hommes qui savent faire ça. Faire des additions, c'est une faculté tellement humaine qu'une machine ne pourra jamais faire ça. Donc, voilà le résultat de l'intelligence artificielle. C'est la machine de Pascal, elle sait faire des additions, elle est intelligente. Pour une certaine définition de l'intelligence. Pour d'autres, non. Donc si on ne sait pas ce qu'est l'intelligence, ce n'est pas de savoir faire des additions, ce n'est pas le libre arbitre, ce n'est pas de savoir chauffer les maisons, c'est quoi?
De toute façon, la machine est programmée par l'homme. L'homme qui donne son esprit. Il n'y a pas de machine autonome.
Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'elle ait été construite par l'homme. Et qu'elle ne soit pas autonome. Elle peut avoir été construite par l'homme, puis être devenue autonome.
Au départ.
Elle est le fruit d'une réflexion, tout à fait. Ouais.
Attendez, je vous donne le micro.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déléguer à la machine des fonctions monstrueuses que l'homme voudrait accomplir, mais dont il aimerait se débarrasser de façon lâche, de manière à reproduire ce qui a peut-être été fait dans certaines guerres, sans qu'on puisse à aucun moment juger ou accuser qui que ce soit et dire après tout, ce sont les machines.
Bien sûr qu'il y a ce risque.
Ce serait la monstruosité absolue.
Bien sûr qu'il y a ce risque, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une réflexion éthique, d'une réflexion morale, sur ce qu'on veut faire aux machines et ce qu'on ne veut pas leur faire faire.
Oui, maintenant les moralités sont différentes.
Et pour entrer dans cette réflexion éthique, il faut se débarrasser des préjugés qui nous encombrent.
Oui, ceci dit, les moralités sont différentes.
Oui.
Et on peut très bien penser qu'à un moment, ça peut être des gens qui auraient...
Oui, c'est des questions qui sont extrêmement complexes. C'est des questions qui sont extrêmement complexes.
Très, très pessimiste, je vous l'assure.
Une personne... dont je connais le nom, je ne connais pas la personne elle-même, mais je connais son nom, fait des travaux sur des robots qui vont remplacer des êtres humains sur des champs de bataille. Voilà. Donc, vous avez un robot qui avance sur le champ de bataille avec une mitraillette et qui tire. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui, on n'a pas des robots fantassins, mais on a des robots aviateurs, puisqu'on a des drones, on a des avions sans pilote, donc c'est déjà le cas. Et une question lui est posée, on lui dit « mais c'est pas horrible, ces machines qui vont d'abord tuer des êtres humains et éventuellement, in fine, s'entretuer, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que l'ennemi ne va pas faire la même chose. Enfin, s'entretuer, s'entre-débrancher. Et il dit non, au contraire. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts à la guerre? C'est parce que les gens paniquent, ils tirent en toutes les directions. Le robot, on peut lui donner des règles éthiques. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une réflexion éthique sur la manière dont on construit le robot, de manière à ce que le robot ait lui-même un comportement éthique et ne viole pas les lois de la guerre. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est d'accord avec lui. Mais ce problème n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple de dire « c'est une machine, donc c'est mal ». Vous voyez ? Il y a quelque chose qui mérite d'être regardé dans cet argument, qu'une guerre qui tuerait moins de gens serait mieux. C'est je ne dis pas qu'il a raison. Je dis juste que l'argument n'est pas complètement délirant. C'est un argument, ça mérite qu'on se pose la question, est-ce que un robot infirmier qui irait récupérer les gens sur le champ de bataille, au lieu que ce soit des infirmiers qui se font canarder, comme en plus ils ne peuvent pas répondre, est-ce qu'il n'y a pas un cas où ce qu'il dit, un cas rare, un cas marginal, où ce qu'il dit serait sensé? C'est des questions hyper compliquées. C'est des questions auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Et si on part de l'idée que si c'est des machines qui tuent, c'est horrible, si on délègue à une machine des choses importantes, il ne faut pas, ben je pense qu'on ne peut pas réfléchir à ces questions. C'est ça le doute que j'aimerais sommer dans votre esprit. Oui, la confiance que j'ai dans l'être humain dépend beaucoup de l'être humain dont on parle.
Est-ce que notre défiance vis-à-vis des machines, elle ne vient pas du fait que plutôt ça serait nous qui pourrions devenir en partie artificiels, si j'ose dire, ouais. Enfin, je mets entre guillemets le mot évidemment. Avec, bon, déjà tout ce qu'on voit au niveau greffe, mais même au niveau peut-être du cerveau, je ne sais pas. Enfin.
Donc, c'est trop tard, nous sommes déjà des machines. Vous avez parlé des greffes. J'ai participé une seule fois dans ma vie à un sondage. Donc, je vais parler des sondages tout à l'heure, donc c'est le moment de commencer. On m'a posé comme question, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on vous mette un circuit électronique à l'intérieur du corps. Alors, voilà, qui serait favorable à ça? Ah, bon, bonne question. Donc, j'ai posé la question tout de suite. J'ai dit, mais ça dépend pourquoi. Si j'ai le cœur qui a lâché, qu'on met un pacemaker, je vais sauter de joie. Si on me met un implant dans l'oreille de manière à ce que je puisse recevoir des publicités même quand je dors, non, ça, je ne suis pas trop d'accord. Donc la question, et là la personne qui faisait le sondage me dit, bah, c'est génial parce que 99% des gens répondent non. Et donc ma question suivante, c'est est-ce que vous avez envie qu'on vous mette un pacemaker si vous avez un accident cardiaque? 99% des gens répondent oui. Et ma question suivante, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction entre vos deux réponses précédentes? Donc on va passer à la question 4. Et donc voilà, nous sommes déjà dans un monde où on peut avoir des organes qui sont électroniquement assistés, ce qui pose tout un tas de problèmes éthiques. En particulier, il faut que vous soyez le seul à pouvoir, ou vous et votre médecin éventuellement, à être programmé le pacemaker. Il ne faut pas que n'importe qui puisse y avoir accès. Et donc là, il y a des gens qui disent génial, on va reprogrammer les pacemakers avec du Wi-Fi au lieu de faire une opération. Bon, c'est vrai, s'il faut ouvrir pour reprogrammer le pacemaker, c'est lourd comme opération. Mais les gens disent il faudra peut-être du Wi-Fi sécurisé. Ah oui, c'est vrai. Bon, donc là il y a un vrai danger. Mais également, on est devenu des machines à partir du moment où on a commencé à écrire. Et c'est ce que nous dit Platon. Avant, on mémorisait, et maintenant, on a un organe externe. C'est la feuille de papier, la tablette. Eh bien, l'outil prolonge l'organe. C'est un organe extérieur et qui est une machine. Une question, c'est est-ce qu'on peut vivre sans cette machine? Alors moi, vivre sans écrire, sans ordinateur, sans papier, sans crayon, etc., je peux 24 heures. Je ne peux pas plus. Au bout de 24 heures, si je n'ai pas un truc où je peux écrire, j'en ai besoin. Donc je suis complètement dépendant d'outils techniques externes. Et c'est bien.
Alors, on va prendre une dernière question courte et une réponse courte.
Il y a la loi de la nécessité, oui. C'est-à-dire, effectivement, c'est important de faire une différence entre avoir un téléphone dont on pourrait se passer et avoir un téléphone dont on ne peut pas se passer. Mais cette nécessité, elle est aussi extrêmement difficile à définir. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne peut pas se passer d'un téléphone? Bon, effectivement, ça veut dire je pourrais peut-être continuer à vivre sans téléphone. Mais est-ce que c'est vrai, ça, que je pourrais continuer à vivre sans téléphone? Est-ce que je n'ai pas organisé toute ma vie sociale de manière à ce que j'ai besoin d'un téléphone pour interagir avec les gens? Est-ce qu'on pourrait vivre sans transport en commun? Est-ce qu'on pourrait vivre sans train? Notre vie serait vraiment très très différente si le train n'existait pas, si le téléphone n'existait pas, même notre perception des relations aux autres serait différente. Donc la nécessité est un concept difficile. Non, plutôt, j'aurais tendance à dire, de la même manière que je suis content d'avoir des oreilles, je suis content d'avoir un téléphone. Et il n'y a pas vraiment de différence entre mon oreille et le téléphone. Sauf que je peux changer de téléphone tous les 3 ans.
Alors, question courte et réponse courte, et après, on libère la salle. On se retrouve dans la salle d'à côté pour la vente dédicace. Prenez, si vous pouvez, des affiches hein, pour la prochaine fois à placarder. Ça m'évite de traverser la campagne.
Oui, tout à l'heure, vous parliez de l'art et des techniques, et vous n'avez pas parlé du design.
Oui. J'ai pas parlé de l'architecture non plus. Alors, effectivement, mais j'en parle. Alors, je parle de l'architecture dans mon livre, pas du design. Effectivement, il reste de la vieille conception de l'art. Il reste quelques traces dans notre société. Par exemple, les architectes ne sont pas des sculpteurs. C'est-à-dire, les architectes ne font jamais des bâtiments juste parce que le bâtiment est joli. Ils font toujours un bâtiment qui a une fonction, qui a, comme ils disent, un programme. C'est-à-dire un bâtiment qui sert à quelque chose. Et là, la notion de bâtiment utile et la notion de bâtiment beau n'est pas dissociée. Et le design, c'est pareil. Donc, tout ce qui est les arts déco, etc., c'est les arts appliqués, c'est l'ancienne conception de l'art qui continue à survivre. Mais vous voyez que au sein des artistes, dans la hiérarchie des artistes, il vaut mieux être Picasso que faire des brosses à dents. Que Picasso ? Ben moi, j'ai une brosse à dents Philippe Starck, j'aimerais bien avoir un Picasso. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais... Oui, mais... Voilà. Bon. Et ça serait intéressant qu'on revienne à cette idée qu'avoir une belle brosse à dents, c'est plus utile que d'avoir un beau tableau dans son salon. Ou c'est aussi utile... Les deux sont utiles.